Ce 10-10 vous est proposé par le musée Parcelle 473 à Malbosque, sur les hauteurs de Montpellier. Plongez-vous dans une expérience inédite au cœur d'un lieu unique et vivant où l'art urbain se crée, se transforme et se transmet. Exposition, ateliers, rencontres avec les artistes, librairie. Vous avez rendez-vous au musée Parcelle 473 avec le street art, l'art contemporain, en un mot, l'art pour tous.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans cette matinale du 9 décembre 2025. Au micro, Nathalie avec Lou. Bonjour Lou.
Bonjour.
Et Olivier.
Bonjour.
Bonjour Olivier. Aujourd'hui, à l'occasion des 120 ans de la loi de 1905 et en cette cinquième journée pour faire vivre la laïcité, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Michel Miaille. Bonjour Michel.
Bonjour.
Michel, professeur de droit, spécialiste de la citoyenneté et de la laïcité, et qui fut longtemps, je le rappelle, le président de Radio FM+. Donc on est vraiment super content que vous soyez avec nous, Michel.
Dans une période...
lointaine.
Moyenâgeuse.
Lointaine. En plus, on avait fait un beau projet l'année dernière sur la laïcité à l'école. Voilà, avec l'école de La Paillade. Voilà. Un petit rappel sur vous, Michel, pour les deux personnes qui ne vous connaissent pas.
Ah, Michel. Si,
un petit peu.
Quand même.
Voilà. Michel, vous avez enseigné le droit public et la philosophie du droit. Vous êtes engagé depuis des années sur les questions de citoyenneté et de laïcité. Vous avez évidemment été le président de Radio FM+, je viens de le dire. Et puis, il y a plein d'autres choses. Président de la Ligue de l'enseignement.
Pour l'Hérault, vice-président pour la région Occitanie. Et j'ai été un temps vice-président national chargé de la laïcité pour la Ligue de l'enseignement.
Un homme engagé depuis le début.
Mais avant, j'avais été vice-président de la CIMAD. C'est un autre sport.
CIMAD que vous pouvez retrouver tous les mois, au micro de Radio FM+, à travers la voix d'Anne-Marie Borne, qui maintenant nous propose une émission mensuelle avec la CIMAD.
Très bien.
On a des belles émissions sur la 4, sur la CIMAD. Enfin bon, je vous raconterai ça hors micro, Michel. Je vais laisser la parole à Lou,
oui.
Puisque j'ai trouvé intéressant pour cette matinale, non seulement évidemment de vous entendre, Michel, mais il y a une qualité que j'ai découvert chez vous en vous rencontrant, c'est la pédagogie, c'est l'explication, c'est aussi ce bonheur que vous avez de transmettre. Et donc j'ai invité Lou et Olivier à partager ce moment avec nous et je leur laisse la parole.
On va tout de suite commencer. Donc Michel, on parle beaucoup de laïcité, parfois on la confond, parfois on la réduit. Est-ce que tout simplement vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que la laïcité selon vous ?
C'est un terme qui a été inventé à la fin du 19e siècle, donc c'est récent, hein, quelques 25 ans avant la loi de 1905. Et il a été inventé par un philosophe et pédagogue de formation d'origine protestante qui était Ferdinand Buisson. Et il explique dans son dictionnaire de pédagogie qu'il a inventé ce mot à partir du mot grec « laos » qui veut dire « le peuple » et l'adjectif c'est « laikos » qui veut dire « populaire ». Qui est un terme très générique. Les Grecs avaient trois mots ou quatre pour dire le peuple, hein, suivant le sens qu'ils voulaient donner à ce mot. Et laos, c'est vraiment les gens dans la rue, c'est le laos. Si vous allez passer vos vacances en Grèce, vous verrez que la banque populaire s'appelle Trapeza Laïka. Donc c'est un terme tout à fait commun et courant. Et Buisson dit, j'ai utilisé ce mot, je l'ai arrangé, donc ça a fait laïcité ou laïque, qui n'est pas à confondre avec le mot laïcus, qui est du latin, et qui signifiait dans l'Église catholique, et c'est encore le cas, le laïc avec un C, et pas QE, le laïc avec un C, qui veut dire quelqu'un qui appartient à l'Église catholique, mais qui n'a pas reçu le sacrement pour être prêtre. Donc, moi, je suis un professeur laïque, et pas laïque, c'est du masculin aussi bien que du féminin, au sens de Ferdinand Buisson, c'est-à-dire, bien sûr, d'origine populaire, mais pour rappeler que la laïcité est un principe qui permet de ne plus faire de la religion un élément distinctif et de l'État et des individus.
Il y a trois principes, grands principes fondateurs, c'est bien cela.
Qu'est-ce que vous voulez dire des principes fondateurs ?
Qui définissent la laïcité ?
C'est pas des principes fondateurs, c'est des éléments de la définition. La laïcité, elle suppose, en effet, si on reprend la loi de 1905, trois choses. Premièrement, liberté de conscience. Ça veut dire que vous avez dans votre tête le droit de choisir ce que vous voulez, de croire ou de ne pas croire, de changer de conviction, d'abandonner votre religion, d'en prendre une nouvelle. Vous êtes libre. Et cette liberté de conscience, elle est totale. Personne ne peut entrer dans votre tête. Elle s'exprime en revanche par la liberté d'expression, on pourrait dire, qui est la liberté de culte. Autant la liberté de conscience est individuelle et secrète, autant la liberté de culte est collective et publique. Quand j'appartiens à un culte, je me réunis avec ceux qui croient comme moi, donc c'est collectif, et c'est public, parce que si j'étais obligé de faire ça dans des grottes, on reviendrait au Moyen-Âge ou aux périodes des persécutions romaines. Donc, liberté de conscience, liberté de culte, et troisième élément, qui est fondamental, sous réserve de l'ordre public. C'est-à-dire, tant que je ne bouscule pas l'ordre public, je n'empêche pas les gens d'aller, de venir dans la rue, je ne crie pas fort, je ne sonne pas les cloches à 2h du matin, etc., j'ai le droit de faire toutes les pratiques religieuses que je veux. Donc ça, c'est la définition de la laïcité comme principe organisateur. Mais il y a une deuxième conséquence maintenant, c'est que la République est laïque, ce qui veut dire qu'elle est séparée de toutes les églises, elle n'accorde ni des subventions, ni une aide, ni elle ne persécute les religions, c'est deux mondes différents. Et donc, je viens de vous donner l'article 1 et l'article 2 de la loi. L'article 1, liberté de conscience, liberté de culte, sous réserve de l'ordre public. Et article 2, séparation entre les églises et l'État, ce qui veut dire je ne reconnais pas les églises, je ne leur donne pas un statut particulier, je ne les salarie pas et je ne les subventionne pas. Avec ces deux éléments, article 1 et article 2 de la loi, vous avez l'essentiel de ce qu'est la laïcité dans notre République. Je termine en disant que c'est bien la preuve que c'est la République qui est laïque et pas la France. La France, elle peut être croyante, incroyante, changer de croyance, être musulmane, bouddhiste ou protestante ou catholique, c'est son affaire. C'est la société française qui est comme ça. Mais la République, elle n'a aucune conviction religieuse, elle ne les persécute pas, elle ne les adopte pas, elle est en dehors.
Vous me dites si je me trompe, mais il me semble quand même qu'il y a certains liens entre l'État et les institutions religieuses, notamment en termes de subventions. Il me semble qu'il y a certaines écoles privées, confessionnelles, qui sont à moitié subventionnées par l'État. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, on est bien d'accord qu'on ne subventionne pas des églises, mais des ensembles scolaires. Ça n'a rien à voir. De même qu'on subventionne des mouvements de jeunesse. Il y a du scoutisme catholique, du scoutisme protestant qui sont subventionnés par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Donc, ce que la République subventionne, c'est des activités d'intérêt général ou des activités d'éducation ou des activités de découverte, peu importe. Mais ce sont des associations, loi 1901. Mais ce n'est pas les associations cultuelles. Les associations cultuelles ne doivent pas recevoir un euro de la part de la République. Alors, vous pourrez me dire, c'est un peu jésuite, la réponse, pas du tout. Parce que pour que les collèges ou les lycées catholiques ou juifs ou musulmans, il n'y a plus de collèges ou de lycées protestants, hein, mais pour qu'ils reçoivent une subvention, il faut qu'ils correspondent à un certain nombre de critères que la loi a fixés en 1959 avec la loi Debré. Il faut d'ailleurs qu'ils acceptent l'autorité du ministère sur leur pédagogie, qu'ils acceptent les mêmes programmes que dans l'éducation publique, il faut que leurs maîtres aient les mêmes diplômes que dans l'éducation publique, il faut qu'ils se soumettent au contrôle, pas simplement financier, mais aussi pédagogique. Bon, ce qui n'est pas toujours bien fait. L'affaire Bétaram ou l'affaire Stanislas à Paris nous a montré que malheureusement, il y a des trous hein, dans cette toile. Mais normalement, ils sont contrôlés pour que leur programme, leur pédagogie, leurs activités correspondent exactement à ce qui se fait dans le public. Ils ont même l'obligation de respecter les croyances de leurs élèves, puisque vous avez des élèves musulmans, par exemple, qui sont dans des écoles catholiques. On ne va pas les forcer d'aller à la messe et à la confesse, même s'il y a eu des cas un peu intermédiaires. Mais normalement, c'est contraire à la loi. Ils doivent accepter tout le monde. Il faut même qu'il y ait un petit mélange. Hein. Ils ne peuvent pas n'avoir que des catholiques pour pouvoir bénéficier du subventionnement. Donc, c'est une sorte d'école sur les programmes, sur la qualification des maîtres, sur la pédagogie, sur le contrôle des examens par la République, mais ils ont la possibilité d'avoir un enseignement religieux, d'avoir des activités religieuses en plus.
Bah, très bien, merci. Et est-ce que selon vous...
Une dernière question,
Lou. Dernière question, merci, je vous promets. Est-ce que selon vous, parfois, la laïcité peut être mal comprise?
Quelquefois, souvent. Elle est mal comprise, j'allais dire, des deux côtés. Elle est mal comprise par ceux qui croient que la laïcité, c'est la guerre à toute forme de religiosité. Or, en France, l'État ne se mêle pas de religion. Il laisse à chacun le droit d'appartenir ou pas à une structure religieuse. Donc, il n'y a pas de chasse aux sorcières, si j'ose dire. Mais en même temps, il n'accorde pas son aide, il ne les combat pas, mais il n'accorde pas son aide à des activités de type religieux. L'exemple type, c'est que la séparation des églises et de l'État fait que désormais, les paroisses, les groupements musulmans ou bouddhistes ou tout ce que vous voulez, doivent s'autofinancer. Ils ne reçoivent pas un euro de la part de l'État. L'État est donc complètement neutre vis-à-vis des religions. Il ne leur apporte pas de l'argent, mais il ne les prive pas des possibilités d'activités. Ça, c'est à eux à trouver pour payer leurs prêtres, leurs pasteurs, leurs rabbins ou leurs imams.
Merci Lou.
D'accord, très bien. Après avoir super bien défini ce qu'était la laïcité, moi je viens vers vous et je vous pose la question de qu'est-ce que la laïcité aujourd'hui en 2025? Et ma question sera, en 2025, selon vous, Monsieur Miaille, comment vous percevez la situation et est-ce que vous pouvez nous donner un diagnostic? Parce qu'en fait, la laïcité aujourd'hui, des fois on peut sentir qu'il y a comme des tensions et certaines confusions sur cette situation. Mais il y a aussi un vrai travail de pédagogie, donc quel serait le diagnostic vis-à-vis de tout ça? Qu'en pensez-vous?
Alors, qu'il y ait éventuellement des conflits, mais qu'on peut tout à fait traiter et gérer, entre les églises et la République, ma foi, pourquoi pas, comme il peut y avoir des conflits sur bien d'autres domaines. Là où les choses sont nouvelles, me semble-t-il, à partir du 21e siècle, et en fait ça a commencé à la fin du 20e avec l'affaire dite des voiles de Creil, c'est qu'il y a une sorte d'obsession à l'égard de la religion musulmane. Or, cette obsession, elle est liée à notre passé colonial. C'est-à-dire qu'un certain nombre de personnes ne voient dans les musulmans que les anciens colonisés. Et donc, comme entre-temps, au plan qui n'a rien à voir avec la France, au plan international, se sont développés des mouvements, des activités, des guerres également, qui se sont cachés derrière un islam rigoriste, on a eu tous les ingrédients pour laisser croire que l'islam était par nature une religion, pas simplement intégriste, mais violente. Et donc, on voit aujourd'hui que nos concitoyens ont à l'égard de l'islam une réaction qu'ils n'ont pas à l'égard ni des chrétiens, ni des juifs, encore au moins les bouddhistes, ils ne sont pas très nombreux, il est vrai, ou d'autres religions, voire même un courant qui s'est beaucoup développé, bien plus que les musulmans, et qui est l'adventisme, le protestantisme très rigoriste qui nous vient des États-Unis. On voit que nos contemporains n'ont pas à l'égard de l'islam la même relation, même à l'égard d'une foi qu'ils ne connaissent pas bien, mais c'est surimposé par, un, le passé colonial, qu'on n'a toujours pas digéré, et deux, les attentats et, je dirais, la situation internationale qui a commencé en Afghanistan pour ensuite s'étendre dans le Moyen-Orient, et qui fait que les musulmans sont toujours un peu suspects de n'être pas de bons Français. Et donc, on voit que se développe aujourd'hui une définition malhonnête, à mon avis, de la laïcité, qui est de dire « c'est le refus des religions ». Alors ça, c'est pas possible, ce n'est pas vrai. Et donc, c'est surtout un contrôle, accru sur une certaine religion, on ne dit jamais laquelle, mais tout le monde a compris ce que ça voulait dire, au motif qu'elle est dangereuse. Je vais vous donner un exemple qui concerne la radio. Quand j'étais président de la radio, sont nés de la part d'un premier ministre, d'origine protestante d'ailleurs, l'idée d'aide à des jeunes qui pouvaient s'engager pour quelques mois dans une entreprise, j'allais dire associative, comme la radio, ce qu'on appelait les contrats aidés. Bon, c'est M. Jospin qui en avait été l'inventeur. Et donc, je me souviens, avec mon directeur de la radio, je fais une demande pour avoir un contrat aidé pour venir travailler à la radio. Curieusement, on reçoit une fin de non-recevoir. « Ah non, non, vous, on ne peut pas vous financer. » Alors, on reste un peu stupéfait parce qu'on comptait bien sur cet emploi aidé pour tenir une partie de la radio. Et je lui dis « Écoute, on va aller voir le directeur du travail. C'est lui qui est le responsable sur le département ou sur la région. » Et donc, on met notre joli chapeau et on va voir le directeur du travail qui nous reçoit très aimablement. Évidemment, ma carte de visite, ce n'était pas simplement président de la radio. Un professeur à la faculté de droit, il a dû se dire, bon, on est obligé de le recevoir. Et donc, je dis, mais monsieur, on est étonné, on remplit toutes les cases, je ne vois pas pourquoi notre demande d'emploi aidé est refusée. Et là, je le vois un peu gêné, il me dit, oui, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est des protestants. Mais qu'est-ce que c'est? Quel protestant? Alors je dis, mais je ne sais pas, vous savez, l'Église protestante en France, elle a 4 siècles d'existence. Oh, oui, mais quand même, mais dites-moi plus. Alors, j'essaie de lui expliquer, je n'allais pas lui faire un cours sur Jean Calvin et les protestants. Et puis, au bout d'un moment, il me dit, mais attendez, là où vous vous réunissez, c'est où? Bah, j'ai dit, le grand temple sur l'avenue qui mène à la gare, là, l'avenue Maglone. Alors, je vois ses yeux s'écarquiller. Ah, mais les protestants de ce temple. Ah, oh ben oui, alors là, tenez, je signe tout de suite. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, j'ai cru que vous étiez peut-être une secte américaine. Alors, ça en dit long, vous voyez, sur d'abord la méconnaissance complète du paysage religieux par les, en tout cas à cette époque-là, hein, par les employés de l'État, et en plus sur la discrimination que ça supposait. Donc, c'est très important de montrer que nous sommes aujourd'hui victimes, alors pas sur le protestantisme, mais sur l'islam, largement, d'une espèce de rumeur qui s'alimente de choses quelquefois vraies, mais souvent de fake news, par lesquelles c'est une population dangereuse, et donc il faut avoir des textes de plus en plus coercitifs. Et c'est malheureusement ce qui se passe depuis le début du XXIe siècle. La dernière loi importante, vous la connaissez tous, c'est la loi qui a, au début s'appelait loi sur le séparatisme. Puis les gens se sont rendus compte, même à Paris, que quand même on fêtait la séparation des églises de l'État, que ça ne devait pas être si méchant que ça. Alors on a changé le titre et c'est devenu la loi renforçant le respect dû au principe de la République. Bon. Dans cette loi, vous avez une énorme partie qui réforme la loi de 1905, dans le sens de serrer les verrous. Et quand vous demandez, par exemple, à un préfet, ça m'est arrivé, mais là, il me dit, non, monsieur le professeur, mais vous comprenez très bien pour qui c'est. Ah non, je ne comprends pas. Eh bien, vous comprenez, il y a des dangers. Bon. Et on comprend que la loi, elle a été faite pour ou contre les musulmans. Et que, mais non, les protestants, vous n'avez rien à craindre, presque les enfants chéris de la République. Et donc, vous voyez comment la chose s'est renversée et comment la laïcité devient une espèce d'arme contre, en tout cas, certaines expressions de foi. Et je termine pour dire, c'est plus embêtant que ça. Ça veut dire que désormais, on donne à l'État, à la République, des moyens de contrôle qu'elle n'avait jamais eus. Et que donc on s'oriente vers une voie où personne ne dit que demain, une paroisse protestante ou catholique ou un groupe bouddhiste n'en sera victime. Par exemple, je vous donne cet exemple, j'en aurais 1000 à donner, mais dans la loi, autrefois, la loi sous laquelle nous vivions, quand on voulait créer une paroisse, on remplissait un document qu'on allait porter à la préfecture. La préfecture mettait son tampon, vous créez votre paroisse. Si jamais on révélait que derrière la couverture de la paroisse, il y a des choses pas claires, le préfet saisissait le tribunal administratif, qui jugeait s'il y avait ou non tromperie. Maintenant, c'est plus ça. Maintenant, vous déposez le dossier. et on vous dit « Ah, attendez, le préfet va le regarder ». Alors qu'on ne lui a rien demandé. Et le préfet dit « Là, écoutez, il faudrait que vous le changiez. Là, ça ne va pas, vous voyez, il faudrait. » Et tant que vous n'avez pas changé, vous ne pouvez pas créer votre paroisse. Ça veut dire qu'il y a un contrôle a priori. Et que cette opération, il faut désormais la faire tous les 5 ans. Alors que la plupart des paroisses sont là depuis 100 ans ou 200 ans. Donc, voyez comment, sous prétexte de plus ou de mieux contrôler les communautés musulmanes, on laisse peser, même sur les religions aussi anciennes que le catholicisme, le protestantisme, surtout évangélique, et d'autres, pourquoi pas demain les bouddhistes ou les raéliens, la menace que « Oh non, non, c'est pas tout à fait, non, non, il faut refaire la copie ».
Olivier, une question courte et Michel, une réponse courte avant notre pause musicale.
Très courte question, du coup, est-ce que, on va revenir vis-à-vis des petits conflits dont on a pu parler au début, et du coup, je vous pose la question, est-ce que l'école, selon vous, elle enseigne réellement la laïcité? Ou alors, est-ce qu'elle se contente souvent de la réciter? Et du coup, ce serait peut-être un problème, du coup, de nos jours.
Alors, je crois qu'il y a un changement. Je crois que, évidemment, pendant toute la fin du XXe siècle, jusque, oui, dans les années 80, 90, bon, ça posait pas de problème majeur. Donc, on se contentait dans les leçons d'éducation civique d'un minimum. Je crois qu'aujourd'hui, on a pris la mesure de ce qu'il fallait former les jeunes générations et qu'il y a un vrai effort. Je rentre là d'une réunion qui s'est tenue au rectorat avec les délégués d'élèves. Ils posent des questions, ils ont envie de travailler là-dessus. La nouvelle rectrice a décidé qu'on allait pérenniser ce type de rencontre. Donc, il y a un vrai effort de la part de l'éducation nationale. Mais il y a une immense remontée à faire parce que, malheureusement, les assassinats comme celui de Samuel Paty ou de Dominique Bernard ont assombri le paysage et un certain nombre d'enseignants s'autocensurent. Ils ont peur, donc ils disent « je ne vais pas mettre mon doigt dans l'engrenage, donc on évacue les problèmes, on ne montrera pas telle photo, on ne fera pas de sortie qui supposerait qu'on visite une église ou je ne sais quoi. » Et moyennant quoi, on affaiblit finalement cette idée qu'il n'y a pas de raison d'être en deçà de cette espèce de liberté qui fait qu'en France, on n'a pas peur des religions puisque c'est une affaire privée et ce n'est pas une affaire de l'État.
Michel, on va marquer une petite pause musicale et j'ai choisi pour vous des chants d'enfants, justement, un peu pour... Et puis on fait un petit point, on se retrouvera après pour parler plus spécifiquement de la laïcité à Montpellier, puisque c'est un combat du maire, notamment, et avec la charte de la laïcité qui est sur Montpellier. À tout de suite.
Tu n'es pas comme moi, mais tous deux on ira, main dans la main, dans cette ronde, danser autour du monde. Je ne suis pas comme toi, tu n'es pas comme moi, mais tous deux on ira, main dans la main, dans cette ronde, danser autour du monde. Vert marron bleu les yeux, brun roublon les cheveux, clair ou foncé nos mains, tous sur le même chemin. Je ne suis pas comme toi, tu n'es pas comme moi, mais tous deux on ira, main dans la main, dans cette ronde, danser autour du monde. Je ne suis pas comme toi, tu n'es pas comme moi, mais tous deux on ira, main dans la main, dans cette ronde, danser autour du monde. Prenons nos différences, restons dans l'insouciance, nous ferons face au vent, debout fort d'être ensemble. Je ne suis pas comme toi, tu n'es pas comme moi, mais tous deux on ira, main dans la main, dans cette ronde, danser autour du monde. Je ne suis pas comme toi, tu n'es pas comme moi, mais tous deux on ira.
Et rebonjour chers auditeurices, vous êtes bien sur Radio FM+, vous pouvez nous joindre à communication.radiofm+.org et bien sûr aller découvrir notre nouveau site qui est tout neuf, tout beau, tout flambant sur radiofm+.org je crois, enfin vous tapez Radio FM+, vous allez tomber sur notre site. Je remercie Yann, évidemment, excuse-moi, de nous accompagner pendant ce moment avec Michel Miaille, qui est notre invité aujourd'hui. Et pour mieux le questionner, et pour, il y en aurait pour des heures, hein. On a envie de chaque moment où Michel intervient, on a envie de le relancer pour, on a une matinale pour en parler. Et donc, cette matinale que j'ai partagée, j'ai eu la joie de partager avec Lou et avec Olivier. Je voulais qu'on mette pour les 10 petites minutes qui nous restent, un peu l'accent sur Montpellier, Michel, parce que ici à Montpellier, aujourd'hui, la ville célèbre la 5e journée de la laïcité. Il y aura beaucoup d'actions hein, dans les écoles, dans les collectivités. Vous-même, vous allez nous en parler, vous présenter un film aujourd'hui, dans l'après-midi, qui s'appelle Les Séparations. Michael Delafosse a créé, je crois que c'est lui qui a fait la charte de la laïcité, a mis, ou c'était Sorel avant, je crois que c'est Delafosse qui a fait la charte de la laïcité, où elle a toujours eu lieu à Montpellier.
Je ne sais pas ce que vous entendez par la charte de la laïcité. C'est un texte national. Hein.
Ah bon, parce qu'il y a une charte de la laïcité qui est assignée, enfin nous en tant qu'association par exemple, quand on demande une subvention. C'est au plan national.
Toutes les associations qui demandent une subvention doivent montrer qu'elles sont d'accord avec le principe de laïcité. Alors, moi je suis réservé, parce que une imposition que je trouve un peu curieuse. Après tout, si on fait des choses qui ne vont pas, on en tire les conséquences. Il n'y a pas besoin de demander une déclaration de philosophie laïque, mais moi je l'ai signé pour mon organisation. De toute façon, la loi que j'ai citée tout à l'heure de 2021, et encore plus le décret d'application du 31 décembre 2021 sur le contrat d'engagement républicain, le CER, définit toutes les conditions par lesquelles une subvention peut être donnée, à condition de respecter un certain nombre de choses. Donc, moi je trouve que...
Ça peut aussi être contre-productif.
Laisser croire que la laïcité est une adhésion à une philosophie particulière, alors que c'est pas le cas.
C'est
une liberté accordée. Évidemment, si on ne respecte pas les termes de la liberté, on peut être ou sanctionné ou être privé de subvention. Bon, mais enfin, la loi l'a prévu, le décret l'a mis en place. Bon, je veux bien m'y soumettre.
J'ai une question avant de laisser la parole à Lou. Moi, il y a un terme qui m'exaspère, hein. C'est le terme laïcard. Et dès qu'il y a une position laïque, dès qu'on parle de laïcité, il y a un mépris d'ailleurs sur les chaînes d'extrême droite, hein. Je parle de CNews, sur le mot laïcard. Qu'est-ce que vous en pensez de ça?
Alors, c'est pas nouveau, parce que depuis 1905, les laïcs ont été vilipendés à l'époque par l'Église catholique. Depuis, elle a bien compris, et même les déclarations d'évêques depuis les années 30 montrent que ça s'est apaisé et que l'Église catholique, après avoir longtemps résisté, à partir de 1923-24, a accepté le statut laïque de la République. Donc, aujourd'hui, c'est une affaire passée. Mais c'est vrai que laïcard est aujourd'hui repris, mais malheureusement, pas du côté qu'on croyait. Mmh. Autrefois, les laïcards, c'était des gens d'extrême gauche, des athées, des communistes, voire des socialistes, qu'on accusait d'être vaguement francs-maçons. Aujourd'hui, les plus laïcards, les plus enchaînés sur l'idée de laïcité, c'est l'extrême droite. Et donc là, ça devrait faire réfléchir parce que, en réalité, sous couvert de laïcité, c'est la lutte contre les musulmans qui est mise en œuvre.
Comme vous nous l'avez dit en première partie d'émission, je vais revenir à Montpellier, Lou.
On revient aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez également présenter le film La Séparation, qui est un vieux film de 2005. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ce film aide à comprendre les enjeux et l'histoire de la laïcité en France?
Alors d'abord, je voudrais dire que tout ce matin, je l'ai passé au lycée Pompidou, à Castelnau-le-Lez, avec une centaine d'élèves pour travailler sur le thème de la laïcité. Alors ce film, La Séparation, il a été fait, je le signale, par la Ligue de l'enseignement. C'est notre organisation qui l'a créé, en accord avec la chaîne parlementaire. Et donc, l'idée était de ressusciter de manière un peu vivante les débats sur la laïcité tels qu'ils ont eu lieu pendant l'année 1905, hein, en gros entre février et novembre 1905. Et ils ont pris des acteurs remarquables, des acteurs, si vous allez voir le film, qui sont très connus.
Il y a Pierre Arditi,
par exemple, Arditi qui représente Aristide Briand, mais d'autres, il y en a qui sont morts depuis, malheureusement. Je pense à Claude Riche, qui représente l'abbé Guéraud, qui était un député de droite, et qui dit, de toute façon, nous avons déjà été attaqués plusieurs fois depuis Jésus-Christ, donc nous gagnons à la fin. Le pauvre, il s'est trompé. Bon, heureusement d'ailleurs. Et donc, c'est un film extraordinaire parce qu'il y a de très bons acteurs. et il reprend à la lettre les discours qui ont été tenus et qui sont d'une extrême modernité entre la gauche, l'extrême gauche, la droite, l'extrême droite, et on voit comment le président du Conseil, on dirait aujourd'hui le Premier ministre, en réalité il n'était pas encore président du Conseil, Aristide Briand, il était le président de la commission et le rapporteur du projet de loi, navigue comme il peut sur chaque article pour chaque fois constituer une majorité. Alors des socialistes, des radicaux socialistes, l'extrême droite n'en veut pas, elle ne veut pas voter ce texte, elle trouve qu'il n'est pas assez méchant à l'égard de l'Église, un peu du centre, et des fois on arrive à tirer quelques personnes de droite qui se disent « Oh, après tout, finalement, on n'y perd pas ». Et sur chaque article, il est obligé de recomposer sa majorité. C'est un exercice, j'allais dire, extraordinaire d'intelligence politique pour faire en sorte que la loi qui va être votée ne soit pas une loi de vengeance, une loi qui accable l'Église catholique, mais au contraire d'entente et d'unité retrouvée. Et heureusement qu'il a réussi ce pari.
On n'a pas noté où c'était d'ailleurs le
lieu. Alors c'est au Rabelais, c'est-à-dire la grande salle qui est sur l'esplanade. Donc ce sera à 2h30, je présente le film, je vais expliquer que bien qu'il ait 20 ans d'âge, puisqu'il a été fait pour le 100e anniversaire en 2005, il est toujours d'actualité. À la fin simplement c'était le début du problème du voile, puisqu'en 2004, l'année d'avant, on venait de voter la loi sur l'interdiction des signes religieux à l'école. Donc on a été très marqués à l'époque par cette problématique du voile. On l'est resté aujourd'hui, malheureusement. Mais tout le reste, alors, est un vrai bonheur pour comprendre comment, démocratiquement, on peut faire voter un texte de liberté, y compris contre des gens qui, sous prétexte de défendre leur religion, préfèrent ne pas accepter une règle d'ouverture et de concorde.
Lou, il nous reste 3 minutes pour une dernière question, Michel, avant de conclure, si tu as une autre question.
Pour une dernière question, qu'est-ce que vous souhaitez que le public retienne de votre intervention et de la projection du film ?
J'aimerais qu'il retienne 2 choses. La première chose, c'est que quand on est animé par des intentions claires, les textes qui sortent, qui témoignent de cette intention, sont durables. C'est le cas avec la loi de 1905. On n'a pas essayé de louvoyer. Comme l'a dit Aristide Briand, nous allons aux limites du libéralisme. Nous faisons tout pour que même ceux qui ne sont pas d'accord acceptent cette loi. Et à l'époque, ça voulait dire l'Église catholique. On a dit même à l'époque, même s'ils le font, contraindra l'Église catholique à être libre. Parce qu'elle a tout à gagner. Ce que 30 ans plus tard, elle a reconnu. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que ce texte qui date d'il y a 120 ans, il est étonnamment contemporain. Il n'a pas besoin d'être changé d'un iota. Certains demandent même qu'on constitutionnalise l'article 1 et l'article 2 de la loi, ce qui, entre nous, pour les gens qui suivent un peu, a été fait par le Conseil constitutionnel. Mais fermons la parenthèse. Mais qu'on lui donne toute la place qu'il faut parce que ce texte n'a pas vieilli et que dans ses principes et dans son mode d'organisation, il nous assure de la liberté pour ceux qui croient ou ceux qui ne croient pas, d'être traités également par une République qui, elle, n'a pas de religion. Et je le répète, la République est laïque, mais la France n'est pas obligatoirement laïque. En tant que Français, vous avez le droit d'avoir, de ne pas avoir de religion, ou d'en changer, ou de dire tout ce que vous voulez, y compris par des caricatures, et voyez à qui je fais allusion. La République n'a rien à dire là-dessus. Notre Constitution dit bien « la France est une République laïque ». Ce n'est pas la France qui est laïque, c'est la République qui est laïque. Et ce faisant, elle permet à tous de dire ou de pratiquer leur religion ou leur absence de religion.
Merci Lou d'avoir posé cette question qui synthétise bien tout notre échange. Il est temps de se quitter. Donc, en allant sur Internet, vous allez trouver toutes les infos de ce que propose la ville pour sensibiliser à la laïcité pour ses 120 ans et cette journée de la laïcité. On vous propose de retrouver Michel donc à 14h30, à revenir un petit peu en avant demain à la salle Rabelais pour participer à cette conférence et à cette belle diffusion. Et puis je remercie infiniment Lou, Olivier, Yann et Jean qui n'était pas loin derrière avec son regard bienveillant sur cette émission. Et puis on se retrouve demain pour un autre 10-10. Je ne sais pas l'invité de mercredi puisque là on est mardi. Je ne sais pas, je crois que c'est moi encore demain. Voilà. Merci beaucoup. Merci de votre fidélité, chers auditeurs. Et merci d'avoir écouté ce 10-10 spécial consacré aux 120 ans de cette loi de 1905. Restez sensibles à ce sujet, c'est important. Au revoir et à demain.
Ce 10-10 vous était proposé par le musée Parcelle 473 à Malbosque, sur les hauteurs de Montpellier. Exposition, atelier, rencontre avec les artistes, vous avez rendez-vous au musée Parcelle 473 avec le street art, l'art contemporain, en un mot, l'art pour tous.